Et c'est le journal présenté par Laurent Mathieu.
Bonjour Marc et bonjour à tous. Laurent. Au sommaire de cette édition, la pandémie en France, c'est le Conseil d'État qui examine des demandes d'annulation de décisions référées des tribunaux administratifs de Lyon et de Strasbourg concernant le port obligatoire du masque sur la voie publique. Précision dans un instant d'Adrien Paluem. Contre la gentrification à Leipzig, manifestation à répétition dans la grande ville de Saxe, à l'est de l'Allemagne. Correspondance de Berlin de Romain Chevalier. Deux soldats français morts au combat au Mali dans une embuscade revendiquée par une branche d'Al-Qaïda, de nouvelles pertes dans un contexte politique lourd, incertain, nous dira Claude Guibal. Enfin, à l'affiche de la face cachée du Globe, signée ce dimanche Nadine Epstein, les relations franco-algériennes. Mais avant toute autre chose, intéressons-nous aux conditions dans lesquelles 1 350 000 élèves du primaire retrouvent aujourd'hui les bancs de l'école en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Au début du mois d'août, les autorités palestiniennes ont fixé le calendrier de cette rentrée délicate et pas que pour les élèves. C'est un reportage dans les territoires palestiniens d'Alice Froussard.
Depuis le mois de mars, les cours se faisaient à la maison, un casse-tête quotidien, une organisation double. Alors, quand la rentrée a été décidée, Eyad Staiti, palestinien de Ramallah, n'a pas hésité une seconde. Ses filles retourneront à l'école.
C'est important pour elles et elles ont hâte. Elles veulent aller à l'école. On ne peut pas rester à la maison éternellement. Et ma famille est jeune, on ne devrait pas avoir de problème. Mais je peux comprendre que ceux qui vivent avec leurs parents, grands-parents, des personnes âgées, aient peur de les perdre à cause du coronavirus.
Tout est prévu, masque pour tout le monde, distance obligatoire et une rentrée en décalé. CP au CM1 ce dimanche, collégiens et lycéens dans deux semaines si le virus ne se propage pas. Mais pour les professeurs, la rentrée a un goût particulier. Mariana Akram, 37 ans, est professeure de sciences à Doura, à côté d'Hébron, au sud de la Cisjordanie. Pour elle, c'est le double de travail, les classes étant divisées par deux, les enseignants trop peu nombreux. Et son salaire tarde encore à être payé par l'autorité palestinienne, trop endettée.
On a seulement la moitié du salaire qu'on a d'habitude. C'est vraiment difficile.
Sans compter le manque de matériel et la canicule qui rendra difficile le port du masque pour les élèves, la rentrée s'annonce compliquée.
Et la crise sanitaire encore, outre les décomptes quotidiens et ses fluctuations qui méritent contextualisation au cas par cas, une lassitude semble s'installer dans de nombreux pays qui ont rendu obligatoire le port du masque. Défilé hier contre les restrictions sanitaires à Melbourne, à Rome, à Zagreb, liste non exhaustive. En France, le Conseil d'État a commencé l'examen en fin de matinée de la demande justement de l'État d'annuler les décisions à référer des tribunaux administratifs de Lyon et de Strasbourg. Bonjour Adrien Paluem.
Bonjour.
Adrien, deux grandes villes où l'obligation du port du masque a fait l'objet d'arrêtés préfectoraux.
Oui, des arrêtés pris la semaine dernière qui rendent le port du masque obligatoire partout et à toute heure. Mais des arrêtés rapidement contestés à la fois par des médecins à Strasbourg et par un collectif de citoyens à Lyon. Ils ont saisi la justice. Pour eux, les arguments sanitaires avancés par les préfectures ne sont pas suffisants. Et ils voient aussi dans cette obligation une atteinte aux libertés individuelles. Alors, l'argument sanitaire est partagé par le médecin épidémiologiste Martin Blachier, interrogé ce matin sur France Info.
Ce qui est difficile avec le port du masque à l'extérieur, c'est qu'il n'est pas appuyé sur des preuves scientifiques très solides. Mmh. Et c'est vrai que la plupart des données qu'on a montrent qu'en extérieur, le risque est très faible. Et donc, les arguments sur lesquels repose le port du masque en extérieur, c'est l'argument de simplicité. Et c'est vrai qu'il est relativement discutable, en particulier sur le moyen long terme.
Donc vous, personnellement, vous le recommanderiez partout ou pas forcément ?
Non, moi je ne le recommanderais pas en extérieur. Et puis le port du masque, c'est pareil, on comprend mieux maintenant, et ça vient d'être publié d'ailleurs, les circonstances qui sont vraiment à risque. Et il y a beaucoup de circonstances qui ne sont pas à risque. Donc le port du masque, c'est pareil, il va finalement se perfectionner. Et je pense par exemple que le masque en extérieur, c'est quelque chose qui ne va pas résister dans la durée.
Ne pas résister dans la durée, car d'autres villes contestent elles aussi les obligations de porter le masque. C'est le cas à Pau, alors qu'hier, près de 9000 nouvelles contaminations ont été enregistrées et que ce matin, 7 nouveaux départements ont été placés en zone de circulation active du virus.
Merci à vous, Adrien Paluet. Tous les enseignants de maternelle et ceux ayant dans leur classe des élèves malentendants seront bientôt équipés en masques dits inclusifs, ces masques transparents qui permettent de lire sur les lèvres. Engagement pris ce matin par la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel. La crise sanitaire, nous venons donc d'en parler. Mécontentement, cette fois intact à Leipzig, ville de l'Est de l'Allemagne, où pour le troisième jour consécutif ont eu lieu de violentes manifestations initiées par des formations d'extrême gauche pour dénoncer la hausse des prix de l'immobilier, ce qu'ils perçoivent comme la gentrification de cette métropole de Saxe avec le rachat de nombreux immeubles d'habitation par des groupes d'investisseurs financiers. C'est une correspondance de Berlin de Romain Chevalier.
Les nuits se suivent et se ressemblent à Leipzig, une ville située à l'est de l'Allemagne. Depuis jeudi, des violents affrontements éclatent la nuit tombée entre manifestants et forces de l'ordre. Hier encore, le cortège de 500 personnes, composé majoritairement de militants d'ultra-gauche, s'est attaqué aux policiers. Des personnes masquées et tout de noir vêtues ont jeté des pierres et des bouteilles sur la police allemande avant de brûler certains de leurs véhicules. Au total, 9 agents ont été blessés en 3 jours. C'est une opération de police effectuée en début de semaine pour déloger des squatteurs de 2 bâtiments qui a mis le feu aux poudres. Depuis, les manifestants se révoltent contre ce qu'ils perçoivent comme la gentrification de leur métropole. Avec le rachat de nombreux immeubles d'habitation par des groupes d'investisseurs financiers, comme c'est le cas dans d'autres grandes villes d'Allemagne. Du côté des politiques, tout le monde condamne fermement ces violents échauffourées. Le maire de la ville a d'ailleurs déclaré que ce n'est pas en agressant des policiers qu'on crée des logements.
L'Allemagne, qui préside actuellement l'Union européenne, ne cesse de faire pression sur Moscou en menaçant de sanctions faute de réponse dans les prochains jours sur l'empoisonnement avéré, selon Berlin, de la bête noire du Kremlin, Alexeï Navalny. L'opposition biélorusse est à nouveau dans la rue pour un 5e dimanche de mobilisation contre le président Alexandre Loukachenko qui, loin de reculer face à ce mouvement de protestation d'envergure historique, ordonne à ses forces de police de procéder à de massives arrestations dans les principales villes du pays. La police de Birmingham fait montre de prudence et demande du temps avant de se prononcer sur ce qu'elle a nommé un incident majeur avec des dernières précisions qui viennent de nous parvenir. Plusieurs personnes poignardées la nuit dernière dans le centre de la deuxième ville d'Angleterre, centre dont les accès à 2 quartiers ont été bouclés par les forces de l'ordre. Et ce bilan, je vous le disais, livré il y a quelques minutes par la police, 1 mort, 2 blessés graves et 5 blessés légers. En Tunisie, une patrouille de 2 agents de la garde nationale a été victime d'une attaque au couteau dans le centre de Sousse, 1 mort et 3 assaillants abattus par les forces de sécurité, acte terroriste de sources officielles. 2 militaires français appartenant au 1er régiment de hussards parachutistes de Tarbes, engagés dans la force Barkhane, sont décédés hier dans la région de Tessalit, non loin de la frontière algérienne. Les 2 soldats ont été tués après l'explosion de leur véhicule blindé. Embuscade tendue au moyen d'un engin explosif de fabrication artisanale, embuscade revendiquée par une ramification d'Al-Qaïda. Ces nouvelles pertes, Claude Guibal, s'inscrivent dans un contexte politique malien compliqué.
Une mine qui explose au passage d'un blindé, malgré son douloureux bilan. L'attaque n'est certes pas de la même ampleur que d'autres que les forces de Barkhane doivent régulièrement affronter. Mais cette explosion qui a coûté la vie à 2 soldats français et blessé un autre, met cruellement le doigt sur un des principaux facteurs de la poussée terroriste au Sahel. Les djihadistes progressent toujours à la faveur de l'instabilité et du chaos politique qui leur ouvre des boulevards pour recruter et gagner du terrain. Le putsch qui a renversé le mois dernier le président Ibrahim Boubacar Keïta participe ainsi à ce contexte déstabilisé et où nul ne sait encore avec qui il faut désormais discuter, négocier ou composer. Le coup d'État a rebattu les cartes, Ibrahim Boubacar Keïta a quitté le pouvoir et même le pays depuis la nuit dernière. Il est officiellement en route pour les Émirats Arabes Unis où il va suivre des soins de santé. La junte, elle, mène depuis hier un début de négociation pour la transition politique. Mais ces négociations ont lieu sans l'ex-rébellion Touareg, pourtant incontournable dans l'équation malienne, et les forces de Barkhane, pourtant revivifiée par les succès remportés sur le terrain depuis le recadrage du sommet de Pau en janvier dernier, espère que ces progrès réalisés ne disparaîtront pas dans le tumulte de ce chaos malien que beaucoup pourtant redoutaient.
Il est 12h39, vous écoutez le journal de France Culture et la face cachée du Globe. Bonjour Nadine Epstein.
Bonjour à vous. Les présidents algériens et français se sont récemment téléphonés pour discuter de plusieurs questions extérieures et nationales. Le Mali et la Libye et le référendum sur la constitution algérienne. Les autorités d'Alger au pouvoir depuis 9 mois font face à une situation très critique, autant en interne qu'aux abords de ses frontières. L'Algérie et la France sont-elles en train de se rapprocher? Des éléments de réponse avec Kader Abdelrahim, directeur de recherche à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe.
Aujourd'hui, la situation inquiète en Algérie, mais également inquiète parmi ses partenaires. La crise économique, la baisse des revenus issus des hydrocarbures, contestation interne avec le Hirak, une situation externe avec des menaces à toutes les frontières, la Libye, le Niger, le Mali. Donc cette situation est aujourd'hui critique. Elle inquiète l'Algérie, mais elle inquiète aussi tous les pays environnants qui sont extrêmement inquiets de voir la progression des organisations terroristes.
Récemment, le président Macron a téléphoné au président algérien sur le Mali et la Libye. Aujourd'hui, est-ce que l'Algérie peut jouer un rôle de facilitateur de paix?
La marque de fabrique de la diplomatie algérienne a toujours été ce dogme qui est on ne s'immisce pas dans la souveraineté des États, dans les affaires intérieures des États. Et elle est toujours prête à offrir ses services et sa médiation pour tenter de régler les questions épineuses. Ça a été le cas notamment avec ce qu'on appelle les accords d'Alger à propos des différentes factions au Mali. Dans le cas de la Libye, il y a eu une grosse colère de l'Algérie contre la France parce que l'Algérie avait mis en garde la France parce que c'est son espace stratégique. Et deuxièmement, c'est aujourd'hui une situation qui déstabilise l'ensemble du Maghreb et un peu au-delà. On voit la situation au Sahel et on voit que cela avait même conduit en 2013 la France à intervenir au Mali.
Dès lors, que peut faire l'Algérie puisqu'en 2015, elle avait obtenu un cessez-le-feu au Mali. En revanche, son rôle de médiation avec la Libye a été un peu sans succès.
Oui, alors aujourd'hui, elle tente à nouveau de revenir sur ce dossier en rencontrant les représentants des différentes factions et des deux parlements, celui de Tobrouk et celui de Tripoli. Mais c'est très difficile parce qu'il y a énormément d'intervenants extérieurs et notamment la Turquie qui a provoqué un bouleversement des rapports de force internes puisque la Turquie est parvenue en quelques mois à renverser la situation au profit de son partenaire et donc nouvel allié qui est Fayez Sarraj contre le maréchal Haftar qui lui règne dans l'est de la Libye. Emmanuel Macron, le président français, sait parfaitement que l'Algérie peut jouer un rôle important parce que c'est l'armée la plus puissante du continent qui peut jouer un rôle sinon de stabilisation, au moins éviter que certaines situations au Mali ou en Libye ne dégénèrent, ce qui évidemment viendrait porter atteinte aux intérêts stratégiques de la France.
Revenons à la situation interne en Algérie avec l'annonce de la tenue d'un référendum le 1er novembre sur une réforme de la Constitution.
Deux articles vont être probablement abrogés, le fameux 49-51. Au préalable, lorsque vous étiez un investisseur étranger et que vous veniez en Algérie, vous pouviez investir, mais vous deviez impérativement avoir un partenaire algérien qui, lui, détient la majorité. Et deuxièmement, cet article de la Constitution qui interdisait jusque-là à l'armée algérienne de se projeter hors de ses frontières. Et là, ça nous renvoie à ce que je disais tout à l'heure. Le dogme de l'Algérie, c'est on n'intervient pas dans les affaires intérieures des États. Aujourd'hui, sous pression sans doute des partenaires de l'Algérie, dont la France, l'Algérie pourrait intervenir hors de ses frontières.
Kader Abdelrahim, auteur de Géopolitique de l'Algérie, aux éditions Bibliomonde. La Birmanie renforce sa répression et la censure contre les médias sur Internet. Elle vient de fermer le site de la campagne citoyenne Justice for Myanmar qui proposait des enquêtes poussées sur les exactions des membres de l'armée birmane relayées dans des médias birmans. Désormais, le site affiche une page blanche mentionnant un blocage par directive du ministère des Transports et des Télécommunications. Déjà, au printemps dernier, 221 sites d'information avaient été suspendus. Face aux manifestations contre le racisme et aux contestations autour des symboles de l'esclavage, deux chants patriotiques, Rule Britannia et Land of Hope and Glory, font polémique à Londres. Ces hymnes, associés à la colonisation, glorifient l'identité britannique. Ils sont traditionnellement joués lors de la dernière nuit de la série de concerts de la BBC, les Proms, qui aura lieu la semaine prochaine. La radio-télévision britannique envisage de les supprimer.
Ainsi se referme la face cachée du globe. Merci à vous, Nadine Epstein. Le Soudan a déclaré hier l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire en raison des inondations qui ont fait plus d'une centaine de morts, détruit ou endommagé plus de 100 000 habitations. Le Conseil de sécurité et de défense déclare l'état d'urgence pour une période de 3 mois, le Soudan étant considéré comme une zone de catastrophe naturelle. Quelques mots de la météo pour la France métropolitaine. Météo de l'après-midi, alternance de pluie et d'éclaircies sur la majeure partie du pays. Température maximale en baisse, surtout dans le sud, où on attend entre 22 et 26 degrés. Ce journal a été préparé avec M. Le Chili à la technique Jean-Frédéric.